Adler sur France Inter.
Faire de la langue un travail, œuvrer dans la matérialité de ce qui, pour la société, est un moyen de contact et de compréhension, n'est-ce pas se faire d'emblée étranger à la langue ?
Laure Adler, sur France Inter.
Ce soir, dans l'heure bleue, nous avons la chance de recevoir Julia Kristeva à propos de la publication de ses mémoires intitulée joliment « Je me voyage ». Et pour vous, les auditeurs, mais aussi pour elle, nous avons choisi la revisitation d'un classique de Gréco par Philippe Catherine.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, oh déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien les mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi, déshabillez-moi, maintenant tout de suite, allez vite, sachez me posséder. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous.
Julia Kristeva, nous avons choisi cette revisitation de Gréco par Philippe Catherine parce que vos mémoires sont peut-être une manière de vous déshabiller, en tout cas intellectuellement. Je rappelle que vous êtes beaucoup de Kristeva à la fois, si j'ose dire. Vous êtes spécialiste du langage, je disais tout à l'heure un court extrait d'un de vos livres sur le langage. C'est d'ailleurs de cette manière-là que vous êtes arrivé en France, parce que vous êtes originaire de Bulgarie et c'est pour pouvoir étudier la langue française et le langage en soi. Vous êtes aussi essayiste, vous êtes psychanalyste, vous êtes romancière, vous avez publié une bonne centaine de livres dans différents registres. Vous êtes aussi une amoureuse de Proust, une amoureuse de Jacques Lacan et de bien d'autres choses. Et d'abord, qui est Kristeva? Est-ce que ça devient un logo, Kristeva? Parce que vos œuvres sont traduites dans le monde entier, vous êtes visiting professeur là aussi dans le monde entier. Finalement, c'est vraiment une personne, Kristeva? C'est Julia ou c'est Kristeva?
C'est un portrait de Picasso, avec plusieurs facettes et toujours en mouvement, d'où ce titre qui fait un clin d'œil à la langue française, parce que ça ne se dit pas « je me voyage ». Mais ça veut dire aussi que, quelque intégré que je sois dans la culture française, dans la langue française, comme vous venez de le dire, peut-être, je m'entends, j'entends mon accent et je vais préserver cette étrangeté. C'est une drôle d'histoire. Vous avez parlé de Proust. Il dit quelque part que en France, la fameuse phrase de Hamlet, être ou ne pas être, est devenue en être ou ne pas en être. Et Hannah Arendt a beaucoup ri là-dessus et critiqué aussi l'enfermement dans les communautés, qu'elles soient nationales, de Madame de Verdurin ou même sexuelles. Eh bien, je pense que l'étrangeté est à la fois une épreuve, mais aussi une chance, parce que ça peut permettre de se voyager, c'est-à-dire de traverser les frontières des pays, des disciplines, comme vous l'avez dit dans mon histoire personnelle, mais aussi les frontières de soi-même et en soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque, parce que on peut imaginer que dans ce monde globalisé, tout le monde se voyage. Et je suis pas de cet avis. La transhumance humaine est en route, ça circule, ça se déplace, ça se délocalise, ça traîne parfois, certains se croient en marche aussi, mais on ne se voyage pas au sens que je viens de dire, c'est-à-dire de se mettre en question soi-même, c'est plus difficile. Ça demande une expérience intérieure, un risque, et c'est à cela que je voulais inviter mon lecteur quand on m'a demandé, c'est mon éditeur que vous connaissez, et on n'en fait plus de comme ça, il est décédé récemment, Claude Durand m'a proposé de faire ses mémoires sous forme d'entretien. C'était déjà un dialogue, une sortie de soi, une écoute des questions de l'autre, et ce n'est pas n'importe quel autre. On a choisi un jeune psychologue, Samuel Doc, qui est déjà psychologue, qui travaille beaucoup dans les hôpitaux avec de jeunes enfants en difficulté et qui est romancier aussi, qui a écrit sur le heurt des générations. Et là, on se trouvait aussi entre deux générations. Moi, à mon âge, avec mon expérience d'origine bulgare, nationalité française, citoyenne européenne, adoptée aux États-Unis, et lui, ce jeune homme d'une trentaine d'années qui se pose des questions sur le heurt des générations ou la possibilité de vivre ensemble. Et donc, le parcours qu'on a fait et le parcours qu'il a choisi, ça dépend donc beaucoup, cette biographie, de celui qui l'a lancé.
Mais vous venez d'évoquer Picasso, Julia Kristeva, mais les portraits des femmes de Picasso, y compris des femmes qu'a aimé Picasso, sont des portraits complètement désarticulés, qui n'ont rien à voir avec le réalisme, où la tête peut être très grande ou très petite, et où les parties de la tête et du corps ne s'assemblent pas. Est-ce que vous assemblez? Est-ce que vous réussissez à recoller les morceaux de vous-même et de vos multiples identités?
Picasso déshabille la vie intérieure des femmes. Il déshabille à sa façon. Et j'écoutais tout à l'heure ce que vous nous avez fait entendre, Gréco. Moi, je me laisse pas. Je me laisse déshabiller, bien sûr.
J'espère.
Mais ce que je fais là dans le livre, ce n'est pas un déshabillage par quelqu'un. J'essaye de montrer comment dans la vie qui m'a été donnée d'habiter avec l'exil, avec l'atterrissage dans la culture française, l'accompagnement du structuralisme, du post-structuralisme, la psychanalyse, puis le roman, etc., le mariage, la maternité, j'essaye de construire pas volontairement, mais ça s'est fait comme ça, par la force des choses, une identité en mouvement. Ça dépend en effet du regard qu'on porte sur les tableaux de Picasso, sur les portraits. Moi, je les vois comme une complicité avec la complexité féminine. Et je suis féministe, nous le sommes, chère Laure, ensemble. Je ne suis pas de celles qui se battent pour affirmer une identité contre une autre. Je suis déjà, comme psychanalyste, partisane de la bisexualité psychique que je cherche en chacun, qui est source de créativité. Et à partir de là, ma chère Colette, que nous avons visitée récemment à Saint-Sauveur, vous étiez parmi les fans, eh bien, elle épouse la chair du monde, et les femmes, et les lesbiennes, et les mères, et les mauvaises mères, mais surtout cette écrivaine qui vit avec l'éclosion du monde. Et c'est cette pluralité que j'essayais, moi, de cultiver. Mais je le sens pas du tout comme un déséquilibre qui doit être après consolidé dans une identité, etc. Toute identité est plurielle, et c'est ça que je me voyage, mais à nu, je pense.
Alors, je pense que peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte vous-même à l'intérieur de ces mémoires, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites par vous sur votre propre vie, qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient personnelles, presque intimes. Et surtout, un des traits de ce portrait diffracté que nous, lecteurs, nous pouvons déguster, parce que c'est vraiment un plaisir que de parcourir votre histoire, Julia Kristeva, c'est l'enfance qui reste à l'intérieur de vous aujourd'hui, cette part d'enfance. Alors, pour évoquer cette part d'enfance, je vous propose d'écouter Marguerite Duras. Marguerite Duras qui va évoquer son travail sur et avec les enfants. C'est une archive INA du 2 avril 1967.
J'ai d'abord interrogé les gosses à l'école. Dans l'école, ça n'a rien donné. Mais les gosses étaient encore sous l'hypothèque, si on peut dire, de la scolarité. Ils avaient peur de dire des bêtises, de se tromper. Ils le disaient, oh, je me suis trompé, oh, j'ai dit une bêtise. Alors je les ai pris chez moi, une fois, deux fois, trois fois. Il faut beaucoup de patience. Et j'ai vu arriver le moment, enfin, c'était très net, de rassurement total. Ils m'avaient oublié complètement. Je lançais une question, la question arrivait sur eux, et ils ne savaient pas d'où elle venait, ils en discutaient entre eux. Il faut s'effacer. L'enfance est un âge à part, qui n'est pas l'âge qui précède l'âge adulte. C'est un âge à part, une sorte de préhistoire, fermée, sans communication avec l'autre âge.
Alors Marguerite Duras a passé sa vie d'écrivain à évoquer sa mère, dans différents registres, que ça soit des romans, que ça soit des pièces de théâtre. Elle a aussi beaucoup parlé d'elle et de l'éclosion de son adolescence, notamment dans Un barrage contre le Pacifique. Et vous, Julia Kristeva, vous parlez beaucoup dans ce livre, et très peu, ni dans vos romans, ni dans vos essais, de cette enfance qui pourtant a été une enfance à la fois extraordinaire et en même temps, sur le plan historique, une enfance très chaotique, puisque vous êtes née 2 jours après l'éclosion de la Seconde Guerre mondiale. 2 jours.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas trop insisté dans mes textes théoriques, mais quand même dans les romans, je parle de cette enfance et notamment dans la relation entre ma mère et moi. Dans Meurtre à Byzance, c'était ça, le décès de ma mère est le moment le plus bouleversant, je m'y attendais pas. Je suis une fille du père en principe, comme la plupart des femmes qui se battent dans la vie, mais
vous allez nous expliquer pourquoi.
Mais parce que les pères dans les familles classiques, comme c'était chez moi après la Deuxième Guerre mondiale, étaient celui qui était dans la société. Maman, qui avait fait des études de biologie, était restée à la maison pour s'occuper des enfants. Donc il y avait toujours ce côté classique du paternel et du maternel, du masculin et du féminin. Mais en même temps, maman ayant fait des études de biologie et étant darwinienne, ne partageait pas la théologie théologie, la religiosité de mon père, qui avait fait théologie avant de faire ses études en médecine. Et elle était ravie quand ma sœur et moi, et surtout moi, on attaquait mon père parce qu'on le trouvait dinosaure, fossile, naphtaline avec sa croyance, etc. Donc c'était la guerre, et moi je montais au créneau comme un vrai garçon. Mais en même temps, cette finesse de ma mère, son endurance, sa douceur et aussi sa capacité de nous encourager. Elle disait, je ne veux pas vous couver, je vais vous donner des ailes. Et c'est une mère qui ne savait pas que le féminisme existe, évidemment. Et surtout, vous venez de le dire, je suis née 2 jours après la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Le jour de mon anniversaire, on chantait un chant qui parlait de la guerre déclarée par l'Allemagne et la Russie. Donc, je disais, mais où est-ce que je suis là? C'est pas mon anniversaire. C'est on est dans la guerre en permanence. Donc, c'était quelque chose d'assez dramatique, cette enfance. Et malgré tout, et toutes les hauts et bas du communisme, les différentes crises sociales qu'on a pu traverser, cette ambiance familiale nous a consolidés, m'a consolidée comme quelqu'un qui a le droit d'être libre et de se développer au mieux possible. Donc c'est ça que je garde de mon enfance. Duras disait tout à l'heure que c'est quelque chose à part, intouchable et indicible quasiment. C'est vrai que ça conduit chacun à trouver des langues nouvelles, d'écrire des romans par exemple ou de la poésie, mais pour moi ce n'est pas du tout intraduisible. Parce que, et je m'arrête peut-être là-dessus, la Bulgarie est le seul pays au monde qui fête une fête de la culture où le 24 mai, jour anniversaire des 2-5 Cyril et Méthode qui ont inventé l'alphabet slave, nous les enfants, mais aussi les métiers de la culture, on manifeste chacun incarnant une lettre. Donc une fois par an, j'étais une lettre. Et donc il y a une inscription de la capacité de faire langue dès l'enfance. Donc c'est traduisible, c'est dissible, c'est scriptible. Voilà le message que j'ai reçu.
En tout cas, vous avez vécu en Bulgarie jusqu'en 65, Noël 65, date à laquelle vous demandez par l'intermédiaire de votre professeur principal une bourse de Gaulle pour essayer d'étudier en France, car c'est un pays qui vous plaît, qui vous séduit pour des tas de raisons culturelles. Mais avant, vous venez de le dire, Julia Kristeva, vous avez été éduquée entre un père très croyant et une mère très intellectuelle. Ils aimaient beaucoup tous les deux la musique, et d'ailleurs votre sœur est une grande musicienne. Je ne pense pas que chez vous, évidemment, on ne pouvait pas encore écouter ça, mais pour vous, évidemment, on a exhumé nos souvenirs et ça nous fait très plaisir d'écouter cette chanson. Ah bah Sylvie Vartan, elle a fait la même chose que vous. Hein. Elle était amoureuse de son père et puis elle est partie de Bulgarie.
Mais écoutez, moi, c'est
pour faire des études, mais pour chanter.
Non, mais je ne connaissais pas du tout Sylvie Vartan et je sais que pour la plupart des Français, la Bulgarie, c'est les yaourts et Sylvie Vartan. C'est pas tout à fait les mêmes longueurs d'onde, mais les heures bleues nous baladent de Marguerite Duras à Sylvie Vartan et pourquoi pas nous deux, chère Laure, mais c'est très sympathique.
Bah écoutez, j'ai entendu dans l'émission de Mishka Assayas à 21h sur France Inter hier soir que figurez-vous que Sylvie Vartan était un modèle pour Leonard Cohen quand même. Vous voyez, de quoi être fière d'être bulgare.
Mais je suis très fière.
Sylvie et vous.
Je suis très fière d'être bulgare. Je rentre de Stockholm où figurez-vous, il existe un Kristeva Circle qui
ça,
est.
Ça, c'est chic.
Ah, ça, c'est chic et snob.
Et vous n'avez pas rencontré Bob Dylan.
Mais non, il ne veut pas venir. Mais il y a quelque chose qui le ressemble avec Bob Dylan.
Si vous avez le prix Nobel, vous irez. Vous.
Non, mais attendez, il est né la même année que moi et il avait une délégation chinoise, parce qu'il y a des Chinois dans le Kristeva Circle, et qui m'ont dit que nous sommes tous les deux dans le zodiaque du snake, c'est parce qu'on parle en anglais, et c'est-à-dire du serpent, c'est-à-dire des gens très sensuels et très secrets. Et puis,
vous adhérez
Moi, je crois.
À cette définition de vous
J'adhère. Et surtout, le représentant du prix Nobel qui était venu assister à nos conférences, à nos débats du Kristeva Circle, nous a dit qu'ils ont choisi Bob Dylan parce qu'il désintègre les identités des genres, musique et poésie. Il me dit, mais vous aussi, d'une certaine façon, parce que vous faites de la philosophie dans le roman.
Bah, donc, attention pour l'année prochaine.
Non, non. Peut-être d'abord...
Donc, ça vous choque pas que Bob Dylan ait élu le Nobel, contrairement à certains écrivains français qui se sont exprimés semaine dernière en disant « Oh, la chanson, c'est un sous-genre » et tout ça.
Non, moi je pense que quelqu'un qui doit être très, très, très surpris, ce serait peut-être Philip Roth. Mais peut-être...
Mais il a arrêté d'écrire.
Ah, bon, mais il a beaucoup écrit. Et en tout cas, pour ce qui est de mélange de genres, mais philosophie, poésie et littérature, roman, c'est peut-être Solaire avant moi.
Ah ben ça, c'est toujours les femmes. Les femmes pensent toujours que les hommes, y compris leurs amoureux, sont toujours devant eux, avant eux.
Mais dans la littérature, oui. Parce que vous savez, pour la langue française, pour moi, est une seconde langue. J'ai bien essayé de l'apprendre dès mon enfance, parce que, contrairement à ce que vous disiez, je ne suis pas venue en France pour apprendre le français, mais pour faire une thèse sur le nouveau roman, parce que je l'avais appris plutôt à peu près comme maintenant, je le parle avec mon accent, mais avec une certaine phrase grammaticale bien acquise, dans l'œuvre de Colette, figurez-vous, et de Victor Hugo, que j'apprenais chez les Dominicaines, qui avaient une école maternelle pour les filles. Mais ces femmes ont été accusées d'espionnage et dans les débuts des années 50, elles ont été chassées. Je continue à l'Alliance française. Donc, mon français reste quand même une langue seconde et je n'aurai jamais cette sensibilité colettienne ou proustienne.
Vous rêvez dans quelle langue ?
Je rêve maintenant en français. Mais ceci grâce à une analyse dont je parle aussi dans ce livre, car après avoir été assez intégrée dans le groupe de la théorie française, le structuralisme avec Roland Barthes, qui était un grand ami, et tous ces gens dont que vous avez mentionné tout à l'heure, je me suis rendu compte que la langue qu'on pratiquait dans ces essais était une sorte de peau de la langue, de surface de la langue. Et pour essayer d'entrer dans la chair du langage, tel que je l'avais senti chez Colette, rose, noir, confiture, d'odeur. Ça, il faut être enfant dans cette langue pour la parler comme ça. Mais il me fallait faire une psychanalyse et c'est seulement la théorie freudienne du langage qui peut me donner un accès à faire sens avec le corps.
Ce n'est pas par l'amour que vous avez fait corps définitivement avec la langue française, Julia Kristeva ?
Oh, l'amour, il ajoute beaucoup, mais on peut rester amoureux d'un étranger et ne pas parler sa langue. On a fait d'ailleurs un livre avec Solaire juste avant ses mémoires qui s'appelle « Du mariage comme un des beaux-arts » où on insiste sur le fait que nous sommes deux étrangers en fait qui se côtoient dans la langue. Mais c'est vrai aussi que dans mon histoire personnelle, ça m'a rendu proche des registres infantiles du langage. Un couple tient si les deux arrivent à être bébés. et enfant
ah
dans
bon
le lien, je pense, oui.
C'est vous le bébé, Julia Kristeva ?
Les deux. Si on n'arrive pas à retrouver cet infantile dont parlait Duras tout à l'heure dans un couple, je l'entends chez mes analysants, ils n'arrivent plus à se parler. Ils parlent de la politique, ils parlent de la crise du chômage, ils parlent des élections ou de leur chômage, enfin, toutes sortes de difficultés, les enfants, etc. Mais on reste à la surface du fort intérieur, de l'expérience intérieure.
Donc il faut parler bébé pour enlever la peau de la langue.
Pas l'enlever, mais si on l'enlève, on est écorché. Mais pouvoir la traverser et lui trouver, pour lui permettre d'éclore. On arrive à Colette, l'éclosion. Vous savez que Colette disait « La mort est une banale défaite. Le grand événement de la vie, c'est l'éclosion. » Et puis elle avait cette phrase que j'aimerais faire graver sur ma tombe. « Renaître, ça n'a jamais été au-dessus de mes forces. » C'est un peu prétentieux, Colette le dit, mais me voyager veut dire ça aussi. Comment, à travers les disciplines, la psychanalyse, la vie politique dans laquelle j'essaye aussi de participer avec divers engagements, dans cette espèce de pluralité de facettes, ce sont des renaissances qui se produisent. On change de personnalité, on change de goût, on change d'existence. Et c'est cette renaissance qui est possible que je voudrais transmettre avec ce livre.
Vous avez choisi Julia Kristeva comme musique, une sublime musicienne. Je ne vais pas dire son nom parce que tout le monde la connaît. Il est 20h33, vous écoutez L'Heure Bleue, vous êtes sur France Inter et nous avons la chance de l'écouter grâce à Julia Kristeva.
I love my man, I'm alive, I say I don't. I love my man, I'm alive, I say I don't. But I'll quit my man, I'm alive, I say I won't. I've been your slave, baby, ever since I've been your babe. Since I've been your babe, but before I'll be your dog, I'll see you in your grave. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner, squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many, but I had a long, long ways to go. Put that all together, makes me everything.
Quand l'avez-vous écouté la première fois, Billie Holiday, Julia Kristeva?
Oh là, je ne pourrais pas dire exactement la date, mais je pense que c'était à l'île de Ré. Et j'ai ce disque, et de temps en temps je l'écoute avec d'autres ensemble. J'ai mis une des phrases qu'elle dit dans cette chanson, en exergue du livre « Je me voyage ».« Some men like me cause I'm happy ». C'est ironique parce que tout ce qu'elle dit, par ailleurs, elle n'est pas si happy que ça, ou elle est happy entre autres, et en plus, « Some men like me cause I'm snappy », c'est-à-dire je suis brusque, perçante. Et j'aime bien cette dualité qu'on entend dans sa voix, à la fois très cristalline et très veloutée. Happy and snappy, j'aimerais bien...
Ben vous êtes aussi happy and snappy.
J'espère, un peu, pas tout à fait, différemment, mais bon.
En tout cas, quand vous êtes arrivée en France, donc en 1965, pour faire des études plutôt de sémiotique, et vous étiez une étudiante très brillante, très vite, je crois qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles. Ça n'a pas duré très longtemps, mais vous étiez quand même une étrangère arrivant à Paris, parlant certes très bien le français, mais connaissant personne. Et puis, il y a eu la rencontre avec Solers. Et de cela aussi, dans « Je me voyage », vous parlez beaucoup. Et vous dites, avec Solers, ça a été tout de suite une intelligence de peau, de voix intellectuelle, tout en même temps. Et tout au même moment, et tout en même temps, et tout de manière fulgurante.
Oui.
Pourtant, il était pris et déjà amoureux d'une autre.
Oui. Oui.
Ça vous a pas embêté?
Ben non, moi, je suis arrivée en France à la veille de Noël 65 avec une bourse pour les jeunes Bulgares qui parlent français et qu'on donnait aux vieux Bulgares qui parlaient pas le français. Et donc personne ne partait. Mais mon directeur d'études m'a demandé de me présenter à l'ambassade et de dire ce que je faisais. C'était une thèse sur le nouveau roman. Et la personne qui m'a entendue a dit « Mais formidable, très bien, vous pouvez partir ». Mon père n'a trouvé que 5 dollars et je suis partie à la veille de Noël avec mes 5 dollars en attendant la bourse à la fin du mois de janvier. Quelqu'un devait m'attendre à l'aéroport et cette personne n'est jamais arrivée. Je raconte toute cette histoire dans le livre et je sais pas que faire. Une dame de l'ambassade était dans l'avion. Elle m'a accompagnée jusqu'à l'ambassade parce qu'on se disait que cette personne viendrait me chercher à l'ambassade si elle s'était perdue. Donc elle s'était pas perdue, personne n'est venu. Le temps passant, j'étais complètement frigorifiée. Je n'avais pas le billet de retour. Et tout à coup, quelqu'un passe et on me le présente. Albert Cohen, rien à voir avec
so
le
chic. Grand.
Pas du tout, ça n'a rien à voir avec
c'est
le.
C'est pas le même.
C'est pas le même. C'est un homonyme qui était un journaliste bulgare accrédité aux États-Unis, qui avait écrit un livre sur le dégel, ancien communiste, anti-stalinien, critique par rapport au régime. Personne ne voulait faire d'article sur son livre. Moi, j'ai dit, moi, je le fais. Le lendemain, j'étais descendue en flammes dans à la première page du journal communiste de l'époque qui disait que cette Kristeva est une agente de l'impérialisme et du sionisme. Mon père était abasourdi, on l'a pas dit à ma mère. Enfin, bref, je vous passe les détails. Et Albert Cohen en question me dit « Mais qui vous êtes ?»« Je suis Julia Kristeva. » Ah bon, mais il était un peu déçu parce qu'il attendait une militante consciente du combat qui restait à faire. Et il m'a présenté à sa collègue de Paris et je suis restée chez elle jusqu'à ce que la bourse soit accordée à la fin du mois. Donc vous comprenez que avec tout ça, rester en France, vivre en France, être aimé par quelqu'un qui était considéré comme une espèce de phénomène de Saint-Germain-des-Prés, ami d'Aragon que j'ai très vite rencontré et qui m'a conduit d'ailleurs à changer de sujet, mais on en parlera plus tard pour la thèse, pas le nouveau roman mais l'histoire du roman. Enfin, dans tout ça, quelles que soient les épreuves de la vie parisienne, les difficultés d'être étrangère, c'est mieux que de rentrer chez les staliniens. Donc c'était un choix très conscient, mais sans trop d'efforts, parce que en même temps, de la part de Philippe, j'ai toujours rencontré une une adhésion totale, une compréhension qui n'est pas qu'intellectuelle, parce que c'est là-dessus que l'image opère. Ce sont deux intellos. Il y avait un article dans Libé, tête à tête, Kristeva et Solers, tête à tête. On est tête à tête, mais c'est surtout corps à corps, et c'est parce que c'est corps à corps que ça peut être tête à tête. Donc c'est tout ça qui passe dans le livre dont
Alors,
nous parlons.
Corps à corps, corps à cœur, cœur à corps, avec de l'accord, A2CORD, et aussi un fils. Un fils qui s'appelle David, dont vous parlez dans ce livre, dont vous parlez merveilleusement bien. Un fils, il a quel âge maintenant, David ?
Il a 40 ans. Ah, c'est un garçon qui a eu des difficultés psychomotrices, qu'on a vu dès la naissance. Il a fait une scolarité atypique. Nous avons rencontré plusieurs formes de handicap. Et donc je me suis engagée dans ce combat qui a été porté par le président Chirac et qui a une vitalité extraordinaire. Il lui arrive d'avoir des difficultés neurologiques, on se retrouve à l'hôpital avec des comas qu'il traverse avec une énergie extraordinaire. Il est amoureux, il fait du clavecin maintenant, il fait de la poésie. C'est un grand leçon d'énergie vitale pour moi. Et parfois je lui dis, j'oublie que je suis psy, je lui dis, mais David, tu rêves avec tous ces engagements, tous ces désirs de faire des choses difficiles. Et il me dit, maman, je rêve, donc je suis. Voilà, voilà, ça c'est ce qu'on lui a transmis. Je rêve, donc je suis.
Alors, vous savez, Julia Kristeva, dans l'heure bleue, on demande à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer. Nous avons demandé à l'écrivaine, essayiste, universitaire, auteur d'un monumental ouvrage magnifique sur Roland Barthes, qui d'ailleurs paraît aujourd'hui même en version poche, je veux parler de Tiphaine Samoyeau, de s'exprimer sur vous. Écoutez.
Quand j'étais étudiante, j'ai suivi son cours sur Proust, en auditrice libre, lorsqu'elle enseignait sur Proust à Jussieu. Et donc c'était une époque où j'étais dans l'enseignement un peu poussiéreux de la littérature tel qu'il était dispensé dans les classes préparatoires et puis à Normal Sup. Et donc ça a été une vraie commotion pour moi que ce séminaire, qui après a donné le livre Proust, Le Temps Sensible, parce que j'avais l'impression que la vie s'ouvrait en réalité avec ce séminaire, que tout... Enfin, il faut dire que je commençais aussi une psychanalyse à l'époque, et donc elle lisait Proust avec l'analyse, avec les concepts freudiens, et tout d'un coup, la littérature prenait la dimension d'une expérience, d'une vie, que tout pouvait être réuni dans un même lieu, l'enseignement, la littérature, la vie, l'amour. Il y avait quelque chose de très très puissant. Donc bon, ça a été une expérience. Et puis une autre rencontre, comme ça, un peu à distance, mais extrêmement importante, a été celle que j'ai faite de Kristeva beaucoup plus tard, à travers Barthes. Puisque je l'ai relue aussi à travers Barthes. Lorsque j'ai écrit la biographie de Barthes, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Là encore, sa présence, que j'ai essayé de reconstituer, à la fois avec ce qu'elle me racontait, avec ce que je lisais, mais aussi avec ce que j'imaginais moi, a été très bouleversante. Et la place qu'elle occupait, qu'elle occupe toujours, mais qu'elle occupe pour moi dans cette histoire, est très bouleversante. Et le texte aussi que Barthes a écrit sur elle, sous le nom de l'étrangère, qui est l'étrangère, c'est évidemment pas la stigmatisation de l'autre en tant qu'étranger, c'est, selon Barthes, celle qui non seulement change de place tout le temps, mais vous oblige à changer de place, vous contraint à changer de place, vous fait bouger constamment. Et bah, c'est un portrait très juste et qui dit quelque chose de la place où moi, ou de l'absence de place où moi, j'aimerais aussi me tenir. Donc oui, elle... Kristeva, évidemment, a pour moi quelque chose d'un modèle. Je l'admire. Je pense que quand on essaye d'être dans une place intellectuelle, elle est vraiment un modèle. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'impose pas sa figure comme modèle, précisément parce qu'il y a ce déplacement permanent, une forme d'inquiétude, mais d'inquiétude solaire, joyeuse, engagée. Par exemple, le titre qu'elle a donné à ses entretiens autobiographiques, « Je me voyage », je trouve ça absolument merveilleux. C'est une expression très forte. C'est le voyage, le déplacement, mais avec le pronom réfléchi. Il y a quelque chose d'un peu divagant aussi, d'un peu fou. Ça, voilà, ça m'attache beaucoup.
Vous êtes un peu folle, Julia Kristeva?
Non, mais je suis très, très émue par ce que dit Tiphaine Samuyo, et j'étais en train de penser que j'ai rencontré des personnes qui auraient pu dire ces choses-là, justement à ces rencontres de 3 jours à Stockholm, où il y avait des enseignants, des philosophes, des anthropologues, des écrivains de différents pays, et qui avaient chacun son parcours et qui avaient trouvé à un moment donné une vraie rencontre à partir de mes textes.
C'est parce que vous vous mettez en question et qu'avec vous, être intellectuel, aimer la littérature, aimer la psychanalyse, aimer le champ de la théorie, c'est quelque chose de passionnant, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous avez la sensualité de l'intelligence. Alors je vais dire ce que Roland Barthes écrivait de vous et sur vous, je cite Roland Barthes, « Julia Kristeva change la place des choses, elle détruit toujours le dernier préjugé, celui dont on croyait pouvoir se rassurer et s'enorgueillir. Ce qu'elle déplace, c'est le déjà dit, c'est-à-dire l'insistance du signifié, c'est-à-dire la bêtise. Ce qu'elle subvertit, c'est l'autorité, celle de la science monologique de la filiation. » Voilà. Et à force de savoir, parce que vous savez beaucoup de choses dans différents champs disciplinaires très très différents, Julia Kristeva, est-ce que l'insu, en vieillissant, devient pas quelque chose encore de plus important que le su?
Il y a des gens qui savent beaucoup plus que moi, mais je choisis dans le savoir d'abord des découvertes, des positions que j'essaye de sonder pour les renvoyer une expérience intérieure et une passion qu'ils suscitent en moi, et de communiquer par-delà le sens, l'expérience qui soutient le sens. Je crois qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui que les politiques n'ont pas de vision, cherchent des schémas, mais il y a qui ont des visions, mais ils n'arrivent pas à les incarner, ils n'arrivent pas à transmettre la passion. Et ceux qui ont parfois des passions, je parle de personnes, mais on voit dans les débats présidentiels, ils deviennent pathétiques, ça devient excessif et hystérique. Donc le grand défi pour notre génération d'intellectuels et d'artistes, c'est de toucher la passion des gens au singulier, pas des communautés, pas tous les homosexuels, toutes les femmes, tous les musulmans, tous les juifs, mais la personne.
Et ça, et ce, quelles que soient les études qu'on
quelles
qu'on
que soient les Grecs, les stoïciens grecs avaient un mot qui disait quelque chose que je crois finalement j'arrive à faire plus ou moins pas assez, le toucher intérieur. Avec le sens, toucher l'intérieur de ceux qui lisent et de ceux qui trouvent votre sens. Il y a un modèle, c'est pas le modèle qui compte, c'est qu'est-ce que votre intérieur répond à ce modèle. Et le rôle de l'essai, le rôle du roman, le rôle de la mère, le rôle de l'éducateur, c'est de passer de cette transmission de sens au toucher intérieur. Et ça a donné des idées comme la convivialité, comme la concorde, etc.
Résilience.
Et voilà. Mais c'est cette passion personnelle. Je l'ai entendue dans ce que nous disait Tiphaine Samuyo. On apprend quelque chose de Proust, on donne des théories, mais ça reste pas au niveau des théories. Ça vous touche. Enfin, je me voyage, c'est pour aller jusqu'au toucher intérieur. Quand on y arrive, c'est un grand, grand défi, mais voilà, ça reste un horizon.
Dans vos publications, Julia Kristeva, il y a beaucoup de publications qui rendent hommage à l'histoire de la pensée des femmes. Et vous avez fait une trilogie sur le génie féminin. Déjà, c'était génial d'appeler ça le génie féminin. Il y a donc eu Hannah Arendt, il y a eu Melanie Klein, et puis il y a eu aussi celle dont vous parlez depuis le début de cette émission. Écoutez sa voix, elle va parler de son rapport avec les jeunes filles. C'était le 28 novembre 1948.
Mes jeunes filles, comme je dis, je ne les attire pas, je ne les chasse pas tout à fait. Elles doivent trouver que je manque de conversation, parce qu'avec elles, j'en manque en effet. Et qu'il ne me reste du plus épuisant de tous les plaisirs qu'un prurit d'interrogation. tête à tête avec celles qui sont déjà pourvues d'une profession, je finis toujours par tirer d'elles ce que j'aime le mieux, c'est-à-dire un peu du roman de leur métier. D'autant qu'elles passent aux aveux sans avoir l'air de se douter à quel point elles sont émouvantes. Leur pathétique, elles l'enferment dans ce que notre langage contient de plus banal, dans des explétifs, dans des chiffres affreusement précis et froidement énoncés. Cependant, qu'entre elles et moi s'étend et s'aggrave un espace que la familiarité s'aventurerait en vain à combler, ni d'ailleurs une bienveillance à laquelle elle ne croit guère, ma bienveillance.
Oui, je suis très touchée, je parle du toucher par cette voix de Colette qui est très spéciale. Voilà, je suis arrivée à cette idée de génie parce que mes étudiantes me disaient, mais vous parlez de Proust, vous parlez de Céline, mais vous avez parlé de Duras, mais vous n'avez pas parlé de féministe. Enfin, il faut faire un livre sur le féminisme. Et moi, j'ai pas voulu faire du féminisme. Je sais que vous aussi, vous êtes féministe et vous vous intéressez à, et vous avez beaucoup écrit aussi sur Hannah Arendt et d'autres, mais je voulais pas faire une somme et ériger le féminisme en comportement global. Ce qui m'a paru intéressant, c'est comment le féminisme, contrairement à d'autres mouvements libertaires, tous les prolétaires, tous les gays, tous les bourgeois ou tous les tiers-mondes, est une conception de la vie qui mise sur le singulier, sur le rapport de chaque femme, sur la créativité de chaque femme, pour éveiller la créativité de chaque femme. Et cet appel à la singularité créative de chaque femme, je l'ai appelé le génie féminin, pour que, en lisant l'histoire de Hannah Arendt, de Melanie Klein ou de Colette, les femmes retrouvent leur propre génie personnel. Et à propos de Colette, chacun connaît sa bisexualité, ses excès, ses presque compromissions avec le régime de Vichy, et néanmoins, c'est cette voix, cette écriture qui reste unique. Et je reprends cette phrase d'Aragon qui disait au moment de sa mort, avec sa mort, une aile va manquer au murmure français. C'est magnifique. Le murmure français a besoin de ses ailes de femme. Et Colette, c'est magnifique que sa maison ait été réhabilitée. Nous avons été ensemble pour fêter ça. Mais il faut que tout le monde y aille et qu'on lise ces livres, sans quoi une aile va manquer au murmure français.
Mais c'est vous, la jeune fille, Julia Kristeva, vous avez quel âge? Ben oui, on a deviné.
Vous avez deviné. Mais je me voyage à travers les âges. Donc, bébé, jeune fille,
Et la vieillesse, ça vous fait pas peur?
Ça se termine là-dessus. Samuel me dit, mais est-ce que vous avez peur de la mort? Je crois que je n'ai pas peur de la mort, mais évidemment, j'ai peur de l'impotence, de la douleur, de fin de vie. Et pourtant, je finis avec une apologie du bonheur, à travers une autre féministe que je crois être une des fondatrices du féminisme français, bien avant Simone de Beauvoir, c'est Émilie du Châtelet, dont on a beaucoup parlé chez les féministes, mais on n'a pas beaucoup parlé de son livre sur le bonheur. Elle a écrit un grand essai sur le bonheur pour dire en substance que c'est une illusion, mais il faut savoir jouer avec les illusions, non seulement jouer, mais jouir des illusions. C'est un peu mon message aussi.
Ben merci beaucoup, Julia Kristeva. Pour toutes les personnes qui croient au bonheur, eh bien, il faut lire « Je me voyage », mémoire au pluriel, entretien avec Samuel Doc, Julia Kristeva, aux éditions Fayard. Et pour terminer dans le bonheur, quoi de mieux et qui de mieux que Dionysos avec sa chanson d'été ?
Je me souviens des jours.
C'est fini l'été, vous avez entendu Dionysos, Billy Holiday, Philippe Catherine, merci à Thierry Dupin, à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazar qui l'ont préparé comme chaque soir, et merci à Mathias Aléon qui est à la régie technique ce soir.